Bonjour, on va pas se mentir, ça a été difficile, très difficile de choisir, de sélectionner, de garder quelques numéros parmi les presque 800 reportages tournés pour Interception. Et c'est pourtant ce qu'on nous a demandé de faire pour célébrer les 20 ans du magazine de la rédaction de France Inter. 20 ans passés à documenter la façon dont notre monde évolue, mal, très mal, parfois dans le bon sens. Et en consultant cette formidable bibliothèque sonore, ce qui a été très marquant pour toute l'équipe, c'est de voir à quel point tout a été bouleversé autour des nouvelles technologies. Internet a changé notre vie. Parce qu'en 99, il faut réaliser que quand Interception est créée, quand le magazine est lancé sur l'antenne de France Inter, en 99, on est très peu à avoir un téléphone portable dans la poche. Et pour cause, ils sont beaucoup trop gros pour rentrer dans une poche. Ils avaient une antenne à l'époque. Nous sommes très peu à être reliés à ce qu'on appelait la toile. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les modems, ils crachotaient, ils grésillaient quand on tentait de se connecter au réseau. Et parfois, ça ne marchait pas toujours. D'ailleurs. Donc on va commencer cette série de podcasts consacrés aux nouvelles technologies sur ces 20 dernières années. On va commencer par un saut considérable dans le passé parce qu'on va en 2000 et ça sonne comme la préhistoire avec ce reportage de Stéphane Faure sur la révolution Internet. Au début de notre 21e siècle, il faut savoir qu'Internet est un réseau qui relie 25 millions de foyers contre 4 milliards aujourd'hui. Donc en résumé, c'est un reportage sur l'inimaginable quand Internet n'était pas encore au cœur de nos vies. Direction Parthenay dans les Deux-Sèvres, 17 000 habitants. Pourquoi Parthenay ? Parce que c'est la toute première ville dans ce pays entièrement numérisé. Stéphane Faure a donc signé ce reportage, originellement présenté par Simon Tivol.
Interception. Bonjour. Bug de l'an 2000 ou pas, impossible d'échapper à Internet. Les ordinateurs et les réseaux sont en train de bousculer notre vie quotidienne. Le développement d'Internet a été spectaculaire ces 5 dernières années. Le web relie désormais 25 millions d'ordinateurs dans le monde. Tout ce qui touche à ce secteur, qu'il s'agisse des tuyaux ou de ce qui passe dans les tuyaux, est en plein boom. Le mariage de la technologie et de l'information, au sens le plus large du terme, ainsi que la convergence Internet-téléphone-télévision, sont devenus le principal moteur de l'économie américaine. Certains parlent d'une troisième révolution industrielle. La France rattrape désormais un peu son retard. Elle compte aujourd'hui près de 6 millions d'internautes et le web devient un média de plus en plus grand public. Faut-il avoir peur d'Internet? Va-t-il accélérer les inégalités? Faut-il réglementer le réseau? Nous poserons ces questions tout à l'heure à Philippe Kéo, directeur de l'information et de l'informatique à l'UNESCO. D'abord, pour illustrer ce qu'Internet a commencé à changer de nos habitudes, Interception vous emmène à la découverte d'une petite ville pas comme les autres, Parthenay dans les Deux-Sèvres, qui est entièrement numérisée. La municipalité a pris les choses en main très tôt, offrant dès 1996 un fournisseur d'accès à Internet gratuit pour les 17 000 habitants du district. Jeunes, vieux, commerçants, associations, services administratifs, tout le monde s'y met. Internet Parthenay tisse sa toile, c'est un reportage de Stéphane Faure.
Alors nous arrivons à l'école Gutenberg. Nous allons rencontrer Jean-Luc Clément qui suit une classe de CLI. Ce sont des enfants à problème qui, comme vous pouvez voir, sont excentrés rien que au niveau de la classe. Toutes les classes dites normales entre guillemets sont sur la gauche. Or, eux sont au centre. Ils ont toujours été considérés comme des nuls. Et ils ont créé leur site et ont réussi à obtenir aujourd'hui le prix de Ségolène Royal.
Jean-Luc Clément, je suis instituteur en CLIS. CLIS, ça veut dire classe d'intégration scolaire. Ce sont des classes qui sont intégrées dans un groupe scolaire dit normal, c'est-à-dire avec des enfants du premier degré, mais qui reçoivent une population d'enfants en grande difficulté par rapport aux apprentissages, par rapport il peut y avoir des problèmes de comportement, etc. Ici, ils ont entre 9 et 12 ans. Internet est pour nous, c'est expérimental. On est équipé maintenant depuis, ça va faire bientôt un an. On est en train de voir en quoi cet outil peut apporter des nouveaux modes d'apprentissage. Pour l'instant, j'ai pas d'affirmation. Disons que Je n'ai pas la prétention de dire que cet outil va résoudre leur handicap. On sait que ce sont des enfants quand même, un handicap très avéré. Plutôt les aider à mieux s'intégrer, voilà.
Oui, mais ça, c'est pas trop grave.
J'aime bien Internet parce qu'on l'utilise avec mon maître pour aller chercher plein de sites que notre maître nous dit d'aller chercher. On a été visiter des grottes sur Internet. Les grottes des hommes préhistoriques. On avait construit un site. Tous ceux qui étaient dans ma classe aimaient faire ce site. Et moi aussi, j'aimais bien. Mais je voudrais bien faire des sites sur les animaux. Les écureuils, les ours, les aigles, les chouettes. Puis c'est tout.
Les enfants, ils ont besoin de construire des savoirs. Et ces savoirs, si on les met comme ça, de manière passive, devant l'ordinateur, il n'y aura pas construction de savoir. Il faut qu'ils aillent dans des sites, donc qui sont choisis à l'avance par nous, mais il faut aussi qu'il y ait aussi une analyse de ces sites pour qu'ils puissent construire, à partir de toute cette information qu'ils ont, qu'ils puissent construire des savoirs. On peut utiliser cet outil pour échanger, communiquer. Alors ça, c'est un projet que j'ai actuellement. Je lance un peu partout des appels. J'ai lancé des appels sur la Guadeloupe, j'ai lancé des appels sur la Martinique, j'ai lancé un appel en Réunion, j'ai lancé un appel au Québec. Pourquoi ? Parce que on a affaire à des régions francophones et j'essaye de voir si on ne pourrait pas là-bas trouver une classe similaire au niveau de la population des enfants, de manière à utiliser vraiment cet outil de manière constante dans nos pratiques pédagogiques et de l'utiliser dans sa vraie dimension de communication. Bon, c'est pas nouveau sur le plan de la pratique. On fait de la correspondance scolaire depuis des années dans les classes de France. Ce qui est nouveau ici, c'est que ça va nous permettre d'abord d'avoir des supports totalement nouveaux, l'image, le son. Ça va nous permettre de communiquer en ligne, ça va nous permettre de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe là-bas, par les petites caméras de visioconférence comme on est équipé. Voilà un peu ce que j'essaie de développer prochainement. Et l'avantage par rapport au livre, même si on avait un livre collectif qu'on y allait, c'est que là, on a quand même du vrai. C'est vrai que quelquefois dans les manuels, on n'a pas toujours des vraies images. On est en direct, c'est interactif. Bon, je prends l'exemple de Lascaux, on peut revenir au plan, on peut essayer de visualiser sur le plan où est-ce qu'on est arrivé dans la grotte, on peut repartir voir sur le mur de droite, on peut s'en aller voir sur le mur de gauche ce qu'il y a. C'est quand même une autre dimension, même si le livre garde son importance, cet outil vient en complément, et c'est un complément qui, dans les années qui vont venir, va être très très important.
Ni odeur de craie, ni trace d'encre sur les doigts. À Parthenay, les enfants préfèrent les souris au stylo. Reliés à Internet par un réseau dense de fibres optiques, les écoles et les collèges possèdent un ordinateur pour 4 élèves, soit 5 fois plus que la moyenne française. Et dans toute la ville, c'est comme ça. Une dizaine d'espaces se partagent une centaine d'ordinateurs en accès libre et gratuit. Chaque jour, plus de 200 personnes utilisent ainsi Internet sans contrainte. Exemple dans le quartier HLM de La Mara.
Bonjour, bon, je m'appelle Guillaume Baraton. Alors nous sommes ici devant le cyberbar de La Mara. En fait, devant le cyberbar de La Mara, c'est l'auberge de jeunesse de Parthenay, gérée par l'association Periscope, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui gère la tour depuis une dizaine d'années, qui gère aussi maintenant depuis un an le site internet. Alors là, nous avançons dans le site où il y a 5 ordinateurs. On va voir s'il y a quelqu'un. Voilà. Et voilà un travailleur sur Internet.
Je viens me connecter sur Caramail et j'ai ma boîte aux lettres, ce qui me permet de me connecter aux quatre coins de la France avec plein de jeunes de mon âge ou des personnes plus vieilles que moi. On discute de nos loisirs, de ce qu'on fait à l'école, pourquoi on vient dessus, ce qui nous intéresse, quoi. Donc je clique là, je tape mon pseudonyme. Donc je tape entrer dans le dialogue en direct. Donc je suis dans un salon où il y a plusieurs personnes, un salon en commun où on peut discuter de tout. C'est le salon 15-20 ans et toutes les personnes qui ont entre 15 et 20 ans, ils sont quoi. Donc là je vais voir si je connais du monde dessus, je vais essayer de trouver les copines du lycée. S'il n'y a personne, ben, je vais m'incruster dans le salon et puis on verra bien s'il y a quelqu'un qui veut chatter avec moi. On va aller voir Mister Cool, peut-être que c'est un garçon assez sympa, on va voir à quel âge. Ah ben, il a 17 ans et il est de Mulhouse, donc je vais discuter avec lui, on va voir
Finalement, ça, on peut le faire aussi dans la vraie vie avec les copines autour de soi. Pourquoi aller sur Internet?
On peut dire des choses à Internet pour délirer, quoi, sans se prendre au sérieux. Mais que certaines personnes dans la vie courante seraient un peu choquées, quoi. Là, il me fait un compliment. Parce que je lui ai demandé s'il avait fait des bonnes rencontres et il m'a marqué « Ouais, la preuve, c'est toi, donc je suis sa bonne rencontre ». Un petit compliment, ça fait toujours plaisir.
C'est vrai que ça permet aux jeunes de se retrouver à un endroit que tout le monde connaît et pouvoir s'encontrer, de se parler et de parler aussi aux autres à l'extérieur, quoi. C'est une fenêtre sur le monde un peu que eux n'ont pas parce qu'ils sont un petit peu loin du centre et qu'ils sont, ils sont dans un quartier qui ne bouge plus depuis une dizaine d'années, qui maintenant peut-être grâce à notre cyber endroit et notre bar, peut-être qu'ils ont un endroit maintenant où ils peuvent se retrouver, quoi.
Je viens ici pour regarder ma boîte à lettres sur mes messages que j'ai reçus. Je viens tous les soirs. Internet m'a apporté beaucoup de choses. Comme j'apprends le métier de charcutier et traiteur, je vais sur Internet pour en savoir plus.
Il y a encore 6 mois, pour moi les ordinateurs c'était des gros monstres. Et par mon travail, donc là maintenant, j'ai pu me rendre compte que c'était indispensable et qu'Internet c'est pas compliqué. C'est très facile d'accès, il suffit de cliquer, on s'amuse un peu avec la souris et on peut aller partout. Donc, surtout si on veut communiquer maintenant facilement, on est obligé.
Les jeunes ne sont pas les seuls à s'être approprié le réseau des réseaux. Les personnes âgées, trop modestes pour en parler au micro, apprennent elles aussi à surfer sur la toile, à riper sur la rentelle, comme on dit ici en patois dans le texte. Cité médiévale aux petites ruelles pavées, Parthenay s'est depuis longtemps marié patrimoine et modernité. Comme les trois quarts des 250 associations que compte la ville, Métive possède son site web. Chargée de la sauvegarde de la culture régionale, elle s'en sert pour partager ses trésors avec le monde entier et développer son festival annuel de musique et de chant, avec en plus des extraits sonores en ligne, une fierté pour son président Pierre-Olivier Lolanet.
Vous pouvez venir au festival en sachant, tiens, je viens tel jour parce que j'ai vu le programme, donc le concept du festival m'intéresse, mais aussi les extraits sonores qui sont en ligne me titillent, me disent, tiens, ça devient intéressant, il y a quelque chose, ça pourrait être intéressant, que je peux venir, je peux faire un choix, je peux faire un arbitrage plus facile dans différentes dates. Et puis la deuxième chose importante qu'on trouve sur le site de Métif, c'est une base de données qui vous permet, alors on a fait encore le test ce matin avec notre banquier. Notre banquier, c'est quelqu'un donc qui est originaire des Deux-Sèvres, qui est d'un petit village, et donc il voulait savoir ce qu'on avait sur notre site. Donc je l'emmène sur la base de données du centre de documentation, et là on trouve des enquêtes qui ont été faites par des étudiants, par des militants, il y a 20, 30, 30 ans, de vieux. Donc c'est des vieux qui avaient 70 ans, 80 ans, dans les années 70. Et donc, ce sont des personnages que lui, il a connus dans son enfance, par exemple. Et il savait pas qu'ils avaient été interviewés. Donc, ces gens-là racontent des chansons populaires, des airs de musique. Ils reprennent le violon, ils jouent un petit coup de violon sur tel air de danse, tel air de musique. Ils racontent des histoires de sorcellerie, des histoires des contes, de traditions orales. Et donc, nous, on est en train d'analyser ça. On numérise ces bandes, hein, et puis, on les traite documentairement, on les classe. Et on peut y avoir accès soit par le lieu, donc vous êtes né, je sais pas quoi, à Saint-Lambert, donc hop, vous allez à Saint-Lambert, vous marquez Saint-Lambert, vous trouvez tous les gens qui ont été interviewés à Saint-Lambert. Avec cette base de données, vous pouvez retrouver ce patrimoine populaire, ces cultures populaires, ces musiques, sur l'Internet. Et donc vous y avez accès directement aussi, puisque vous pouvez écouter à la fois un extrait sonore, on a écouté ce matin des extraits sonores d'un vieux qui connaissait dans son village, qui racontait comment les gens qui trichaient aux cartes se faisaient passer pour des sorciers. Et on a écouté une mazurka, deux polkas, et ce sont des documents qui dataient de 1976. Donc c'est une façon de remettre cette espèce d'immense banque de données que Métive possède sur la mémoire régionale, de le remettre à disposition du public. C'est un travail qui est très expérimental. Alors, on le fait à l'échelle des Deux-Sèvres, enfin, à l'échelle de la région, parce qu'on a des fonds sur la Vendée, sur tout le Poitou-Charentes. Et puis, on le fait aussi sur avec un nouveau projet qu'on est en train de lancer, là, qu'on a lancé le week-end dernier, avec la Phonothèque de Rome et un musée en Catalogne, un musée spécialisé sur la Sardane, et Métive. Et on fait tous les trois une base de données européenne sur les musiques et danses de fête dans les trois pays.
À quelques pas de Métive, une grande bâtisse à pans de bois domine une ruelle pavée. Au premier étage, un décor minimaliste et quelques ordinateurs pour mettre en valeur les richesses de la cité médiévale.
Nous sommes dans la maison de la Vierge Noire, en plein cœur du quartier médiéval de Parthenay, le quartier Saint-Jacques. Je suis Marie-Pierre Parthenay, je suis animatrice du patrimoine de Parthenay. Nous avons ici un site patrimonial assez exceptionnel, une petite ville en milieu rural qui conserve un patrimoine de qualité, un patrimoine architectural en particulier, avec un quartier médiéval, des maisons à pans de bois, églises, châteaux. Les nouvelles technologies sont pour nous un moyen non seulement de faire connaître ce patrimoine dans le monde entier, mais aussi un support de présentation et de médiation vers tous les publics. Nous avons en 99 ouvert un site internet pour présenter la place de Parthenay sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en région Poitou-Charentes et en Europe. Donc au départ, il y avait une volonté de présenter au public, d'expliquer, de raconter cette histoire, de présenter le patrimoine. Et finalement, aujourd'hui, cet outil évolue parce que de support où on faisait passer une information, on reçoit nous-mêmes de l'information. Et ce sont les usagers, les internautes, on dit les web pèlerins ou les cyber pèlerins du monde entier qui réagissent. C'est-à-dire que des gens visitent notre site, ils nous font part de leurs propres témoignages. Nous avons des gens qui ont fait le pèlerinage, qui veulent le raconter, et ils continuent à écrire le site avec nous. De sorte que ce site évolue chaque jour, et pour nous, c'est aussi une découverte.
La Maison de la Vierge Noire a également réalisé une exposition virtuelle de faïences anciennes. Des œuvres jusque-là jalousement gardées à l'abri des regards par leurs propriétaires et impossibles à rassembler dans un même lieu. De telles initiatives ont permis de faire connaître la ville et donc de développer le tourisme local. Depuis 3 ans, les Québécois affluent à Parthenay à la recherche de leurs ancêtres huguenots après avoir surfé sur le site de généalogie de la ville.
Le magasin du royaume des mille époques, atelier de costumes.
Cette Canadienne qui travaille pour la radio locale, Radio Gatine, s'appelle Karine. Elle est installée à Parthenay depuis peu, mais ce n'est pas en recherchant son passé qu'elle est arrivée là, c'est en trouvant son avenir.
Bonjour, je suis Karine, je suis québécoise et je vis à Parthenay depuis le 30 juin 1998, parce que j'ai rencontré mon époux sur Internet. J'avais commencé à chatter, pour les gens qui ne connaissent pas le chat, bien, c'est des endroits sur Internet où on peut discuter en direct avec différentes personnes, puis ça peut être de partout dans le monde. Et puis, moi, c'est ça, j'avais commencé à discuter avec mon mari sur Internet. Et puis, au fil du temps, bon, à l'époque, c'était juste un copain comme ça avec qui je discutais, puis on déconnait plus qu'autre chose, quoi. Il est venu le temps où, bon, on a commencé à s'appeler, et les factures ont augmenté. Oui, les factures de téléphone. Et après, bien, je suis venue une première fois le voir, une semaine. Et puis, je suis revenue 3 mois plus tard. Je suis venue pour mon stage qui devait durer 2 mois. Et puis, ben, je suis repartie. On a fêté notre premier anniversaire de mariage le 19 septembre. Ce qu'il y a, c'est que nous, c'est un pur hasard. On cherchait pas absolument à trouver quelqu'un ou on cherchait pas quelqu'un. C'est juste, c'est arrivé comme ça. Bon, puis au fil du temps, surtout, c'est pas après une semaine qu'on s'est dit, ah, je t'aime, je veux passer ma vie avec toi. C'est au fil du temps.
Dès l'automne 97, Parthenay a été la première ville à posséder un supermarché en ligne. Un service jugé séduisant par 200 à 300 clients chaque mois, adepte d'une formule simple. Commande 24 heures sur 24 et prise de rendez-vous pour la livraison. Un service cependant fermé depuis quelques mois, les inspecteurs de la répression des fraudes exigeant que le supermarché détaille les ingrédients de chaque produit vendu sur le web. Irréalisable, assure le supermarché qui espère obtenir rapidement un compromis, tout comme la mairie. Car le web se révèle favorable au développement économique local. Il a permis la création d'une centaine d'emplois dans les nouvelles technologies et l'implantation d'une vingtaine d'entreprises en 2 ans. Et certains petits commerçants ont eux aussi apprivoisé Internet pour sortir des remparts de leur cité. Petite moustache et lunettes rectangulaires, Didier Suire, marchand de chaussures, est heureux d'avoir ouvert sa boutique sur le monde.
C'est une expérience intéressante. Pour moi, ça a d'abord été surtout le moyen d'agrandir mon magasin. J'ai, dans un premier temps, quand j'ai pris ce magasin, agrandi la superficie. Maintenant, je suis au maximum. Maintenant, j'essaie de l'agrandir virtuellement. C'est une formule peut-être bizarre, mais ça me permet de, justement d'agrandir mon magasin au niveau de la France entière, de l'Europe, voire plus. Grâce à Internet, j'ai des clients, bien sûr, majoritairement en France, mais pour l'anecdote aussi, j'ai le Togo, j'ai le Maroc, j'ai l'Espagne, j'ai la Suisse, j'ai les USA, la Guyane française et l'île de la Réunion. Le réflexe d'achat sur Internet n'est pas encore acquis en France, mais je pense que le commerçant, lui, doit être prêt déjà à proposer et être avant la concurrence en place. La première année, je m'étais dit, bon, je vais essayer de rentabiliser l'investissement. Je pensais le faire en un an, je l'ai fait en 8 mois. Donc c'était un peu plus vite que prévu. L'avantage aussi, c'est que maintenant, dès l'instant que le site est créé, il n'y a aucun frais. C'est-à-dire qu'il y a juste le paiement de la page sécurisée, qui est très très peu, c'est-à-dire 1200 francs par trimestre. Et il n'y a aucun frais. Donc maintenant, toutes les ventes qui sont faites sont du bénéfice pur.
Chaque mois, Didier Suire vend une cinquantaine de paires de chaussures grâce à Internet et 500 à 2000 internautes visitent son site. Le paiement est sécurisé et 98% des achats se font par carte bancaire. Rémi Poupeau, le boulanger, lui, ne vend rien sur Internet. Voilà pourtant près de 3 ans qu'il a créé son site, juste pour partager un certain savoir-vivre.
Quand on est sur la page d'accueil de partenaires, on va directement sur... je cherche agroalimentaire, économie, artisanat. Alors voilà la page d'accueil. Partenay est une ville spéciale parce que bon, on a eu une option municipale qui nous a incité un petit peu à parler d'Internet, bien entendu, avant pas mal d'endroits. C'est-à-dire qu'en 96-97, on a commencé à en entendre parler. On a eu des réunions, surtout les commerçants, pour nous expliquer un petit peu ce qu'était Internet. Moi, vous savez, j'ai plus de 50 ans, je ne savais pas trop ce que c'était. Je suis allé à cette réunion par hasard, mais par curiosité surtout, pour savoir ce que c'était. Et puis nous, les petits artisans, les petits commerçants, on a beaucoup de mal à communiquer. Et j'ai tout de suite pensé, en comprenant le système, que ça pouvait être un moyen de communication à notre portée. Communiquer avec les gens de la région. Pour moi, dans ma tête, c'était ça. Mais en fin de compte, je me suis aperçu rapidement, une fois qu'on a été en ligne, et puis qu'on a surtout été le moteur de recherche, que les messages que je recevais, c'était bien sûr quelques-uns de la région, mais ça n'avait rien à voir, c'était du monde entier. De la France, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, du Japon, et mon site qui n'est qu'en français. Vous savez, j'ai tout imprimé les messages. On me demande plein de choses. Quelquefois, c'est juste des mots d'encouragement. Quelquefois, c'est quelque chose de plus précis sur un produit. Comment faites-vous ça? Surtout sur le pain. Un petit peu sur la pâtisserie, mais surtout sur le pain. J'ai souvent envoyé des méthodes de fabrication pour faire du pain chez soi à des gens comme ça, aux quatre coins du monde. Moi, il est certain que je ne vendrai pas des produits. Je ne peux pas fabriquer des quantités importantes pour les expédier. Quoique j'ai eu des propositions. On m'a demandé de fabriquer de la viennoiserie aux États-Unis. On me l'a demandé. J'ai eu un message par une chaîne de supermarchés américains. Mais j'aurais expliqué en toute gentillesse que la viennoiserie, pour moi, elle se fabriquait sur place et puis elle se vendait sur place, quoi. Elle ne peut pas fabriquer, traverser l'Atlantique comme ça, une fois fabriquée.
Commerçant ayant pignon sur web, école informatisée, démarches administratives simplifiées, espace internet en libre accès, le réseau des réseaux envahit chaque jour un peu plus Partenay. Et pour que la population puisse l'adopter, les formations se multiplient, toutes gratuites. Ce jeudi matin, au sein de la Maison de la Citoyenneté Active, un groupe de jeunes chômeurs ayant abandonné l'école sans diplôme tente de trouver sur le net une formation, un métier, un avenir.
Si on revient à cette idée-là de chercher une formation, donc dans la formation professionnelle, vous pouvez par exemple dire, mais moi, tiens, je vais essayer de voir dans les organismes de formation nationaux. Donc si par exemple, vous allez sur le site de l'AFPA, allez-y, cliquez dessus. Bon, donc, est-ce que tu connais bien tous les métiers de la couture? Est-ce que tu as une idée bien précise, bon, ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on peut exercer ce métier-là, etc., etc. Ou est-ce qu'il te reste encore des choses à découvrir?
Il me reste à faire.
Bon, regarde, ce qu'on peut déjà essayer de faire, de voir là, parce que là, on a une rubrique, 400 fiches métiers, tu la vois? Tu pourrais aussi essayer de trouver mais un métier qui pourrait t'intéresser en passant par les centres d'intérêt. Hein, tu pourrais cliquer là-dessus et puis là, on va te proposer tout un catalogue de questions et puis tu réponds aux questions et puis après, on va te sortir une proposition de métier qui pourrait peut-être correspondre à ce que tu recherches. Voilà, donc là, regarde, là, il t'affiche. Voici les réponses proposées pour textile, habillement, cuir et peau. Donc, là maintenant, on va voir, on va te décrire le métier, et puis à la fin de la page, tu auras aussi la possibilité de retrouver les centres de formation et de t'inscrire d'ici directement. Donc, tu n'as plus besoin de les appeler ou te déplacer.
Je suis venue ici pour trouver plus de renseignements par rapport à ceux que j'ai déjà, pour savoir s'il y a des formations qui commencent dans les mois qui viennent, parce que on n'a pas trop de documentation, alors sur le site, j'espère en trouver plus, quoi.
Et ça se passe comment ?
Ben, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Hein. J'ai cherché, mais là, il n'y avait pas sur ce que je voulais. Alors, j'essaie de surfer autre part.
Hélène finira par trouver son bonheur. Depuis quelques mois, les sites d'offres d'emploi se multiplient. Des sites permettant aux chômeurs d'envoyer dans toute la France des centaines de CV et lettres de candidature de manière simple et économique. Apprendre à se servir d'Internet pour chercher un emploi permet également de retrouver confiance en soi. Au RMI, depuis plusieurs mois, Brigitte, la quarantaine, a des projets plein la tête.
Je crois que faire cette démarche est importante, mais pas seule. On a besoin d'être en groupe, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de qu'on nous ouvre la porte finalement, parce que c'est facile de passer devant un centre numérisé, mais lorsque vous apercevez tous ces appareils alignés les uns derrière les autres, je crois qu'on fait vite demi-tour, quoi. Il faut être entouré, c'est un travail d'équipe. Et j'en parle autour de moi et je suis très très heureuse d'en parler, notamment aussi avec des enfants, puisque les enfants sont dans le bain plutôt que nous. Hein. Et puis autour de moi, j'ai des personnes qui ont le même langage que moi. Enfin, en un mot, ça permet d'être reconnu. Et c'est très important lorsque l'on cherche un emploi, lorsqu'on cherche à communiquer avec des gens même au bout du monde. C'est le seul outil que nous possédons à l'heure actuelle aussi complet. Et ça a été une curiosité, une découverte, un déclic, et je dirais même, j'étais agréablement surprise. Je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin. C'est une porte ouverte, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir.
Bonsoir à tous. Donc, dans cette troisième séance, on va repartir sur du neuf, et vous allez reprendre toutes les étapes que l'on a pu voir, à savoir, en premier, donc nous, on a vu l'insertion de l'arrière-plan. On a vu également l'insertion d'images, comment insérer une image sur sa page.
Il est 21h. Dans la grande salle froide de la Maison de la Citoyenneté, une dizaine d'adultes apprennent à créer et à entretenir leur propre site. De plus en plus de chefs d'entreprise souhaitent désormais être visibles sur le web, de plus en plus de particuliers aussi. Et les logiciels Dernier Cri permettent de réaliser facilement une page perso, comme disent les internautes. Appartenez, un collectif d'artistes baptisé Radius expose ainsi ses œuvres sur la toile, une galerie virtuelle pour sortir de l'anonymat d'une petite ville de province, pour diffuser et pourquoi pas vendre dessins, peintures et musique électronique. Bien sûr, cette débauche de technologie a un coût. Pour éviter tout dérapage, la municipalité a signé des partenariats avec de grandes entreprises de l'informatique et des télécommunications. Résultat, à peine plus de 3 à 4% de son budget est consacré au développement d'Internet et le taux des impôts locaux n'a pas augmenté depuis plus de 20 ans. Peu à peu, les premières craintes des habitants se sont dissipées et Internet a été adopté. Arrivé à Partenay il y a 10 ans, Gabi se souvient des premiers débats sur le sujet, c'était en 1995.
On avait des groupes de réflexion avec des gens de la population de Partenay, des citoyens de Partenay. Et les premières peurs, c'était la coupure du lien social à cause des nouvelles technologies. Puis finalement, on s'est aperçu que pas du tout, que ça crée d'autres liens, des liens différents, des liens supplémentaires entre les gens. Et ça, c'est super.
Échange de services, troc, débat, forum de discussion, les partenésiens ont rapidement pris goût à la communication et parfois à la contestation. Stéphane Pelletier est musicien, fondateur de l'antenne locale d'Attaque, association qui réclame la taxation des transactions financières, il a appris à se servir du web pour mobiliser ses concitoyens.
L'entreprise McDonald's avait l'intention de s'installer dans un endroit qui s'appelle la place de l'ancien champ de foire, qui fait partie du domaine public et qui fait partie du secteur sauvegardé de Partenay. Et du coup, on a été quelques citoyens participatifs, comme on dit, à vouloir en parler, parce qu'on trouvait ça à peine normal déjà, la manière dont ça s'était passé. Et puis, on avait quand même quelques griefs vis-à-vis de l'entreprise McDonald's et ce qu'elle représente. Et puis, on avait envie que la ville, la municipalité, affiche un peu, ne cautionne pas ce genre d'entreprise, quoi. Moi, au départ, j'ai fait un courrier électronique, et que j'ai envoyé à tous les conseillers municipaux. J'ai reçu plein de coups de fil à la maison, des gens qui me demandaient « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Des réponses, des courriers électroniques. Du coup, on a organisé une rencontre dans un bistrot, et puis il y a eu une pétition, il y a eu une manifestation, enfin il y a eu un soulèvement. Il y a quelqu'un qui a fait un site web sur McDonald's, qui était hébergé donc sur le serveur de Parthenay. C'était un site de contestation, mais peut-être plus un site d'information qui montrait un peu comment fonctionne cette entreprise. Alors le web a déclenché des choses. En fait, c'est la rapidité du courrier électronique, le fait qu'on puisse envoyer une lettre à 20 personnes, par exemple des conseillers municipaux et des journaux ou des radios locales. Ça déclenche quelque chose. En vitesse, en tout cas, ça gagne. Et c'est vrai que les réponses étaient plus nombreuses aussi par courrier électronique, ce qui m'a, moi, amené à déclencher des réunions, des rencontres. J'avais lancé quelques idées de débat sur les forums, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui répondaient, que je connais pas. Hein, c'était des pseudos, souvent. Hein. Et bon, les réponses étaient plus ou moins intéressantes, mais en tout cas, les gens osaient. Alors que si c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées lors d'une réunion qu'on a organisée, et ces personnes, je pense que c'est des personnes qui n'auraient jamais osé prendre la parole devant 30 autres personnes, parce que c'est pas facile. Et là, du coup, ils se lâchent. C'est la pensée allait directement dans les doigts et dans les claviers, et hop, c'était sur le forum. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que, en fait, qu'il y ait une étape, qu'il y ait la marche qui a à franchir, soit elle doit être franchie par l'homme. Et que ces personnes qui se donnent dans le forum puissent un jour se dire bon allez je vais y aller, je vais au lieu de le taper ce que je pense, je vais aller le dire aux gens en face, quoi. Et puis se rendre compte que le débat direct, la rencontre, c'est aussi très enrichissant. Ce n'est qu'un outil, le web. C'est pas le web qui va faire la démocratie. C'est les citoyens qui font la démocratie. Mais le web, c'est comme le jardin, quoi. C'est pas la bêche qui va faire pousser le jardin. Mais c'est vrai que ça va aider le jardinier à faire pousser ses légumes, quoi.
Une philosophie partagée depuis longtemps par le maire de Parthenay, Michel Hervé. À la tête de la ville depuis 1978, c'est lui qui a eu l'idée très tôt de développer l'usage d'Internet. Pour une société plus harmonieuse, assure-t-il dans un large sourire.
La communication, c'est pas de la technologie, mais c'est d'abord de l'anthropologie. C'est d'abord des hommes qui communiquent entre eux et avec un support. Donc ce support moderne apporte énormément de richesse, élargit complètement l'espace, donne de l'épaisseur au temps, puisque quelque part on est aussi asynchrone avec ces technologies. Mais la réalité, c'est des hommes qui communiquent entre eux, et ça c'est ce que nous ici on a pu découvrir. Et on a pu découvrir aussi que la globalisation dont on parle tant n'est pas une globalisation seulement à l'échelle planétaire, mais peut être une globalisation à l'échelle de la ville, à l'échelle d'une cité, dans laquelle on retrouve, si vous voulez, toute l'altérité qu'il y a dans une cité, c'est-à-dire des différences entre la culture, etc., le sport, l'économie, le social. Et tout ça, ça se mélange, si vous voulez, pour faire un grand ensemble dans lequel on retrouve tout ce qui était la force du village dans le temps.
Quel est l'avenir ?
L'avenir, il est à la fois fait d'opportunités extrêmement larges, et puis l'avenir peut être une catastrophe, parce que dans le même temps que l'on va créer des espaces nouveaux, des choses nouvelles, on détruit des choses anciennes, et il y a des gens qui ne suivent pas, et il y a un fossé qui se creuse entre deux catégories de population. Ça, pour moi, c'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est ce fossé entre des gens qui peuvent faire des choses extraordinaires, innovantes et qui seront plein pied dans le 21e siècle, et puis des gens qui vont se recroqueviller sur les valeurs du passé.
Interception, Simon Tivol.
Pour réfléchir aux bienfaits et aux dangers d'Internet, nous avons invité un pionnier du virtuel en France, Philippe Quéot. Vous êtes directeur de la division Information et Informatique de l'UNESCO. À travers le reportage de Stéphane Faure et l'exemple de Parthenay, on a une petite idée des énormes possibilités qu'offre Internet. On a tendance à être un peu fasciné par l'exploit technique, technologique du réseau des réseaux et son développement très rapide en ce moment. Mais Philippe Quéot, est-ce que ça va vraiment changer des choses dans l'organisation de notre société ?
Oui, je crois que Internet n'en est qu'au début. Aujourd'hui, c'est encore la période où on essuie les plâtres. Mais je pense qu'Internet va bouleverser complètement notre société sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan de l'apprentissage tout au long de la vie. Bref, ça va être une révolution qui va traverser de part en part notre société en France, en Europe, mais également en accélérant les phénomènes de mondialisation.
Alors, à propos de mondialisation, Philippe Quéot, le maire de Parthenay, le dit à la fin du reportage. Lui, il craint un accroissement des inégalités. Les pauvres, les illettrés n'ont pas accès à Internet. Est-ce qu'on peut craindre effectivement la constitution d'une sorte d'élite mondiale qui laisserait de côté le tiers-monde ou le quart-monde ?
Je crois, oui, qu'il y a un risque d'accroissement du fossé. Il y a plusieurs sortes de mondialisation. Il y a la mondialisation technique et financière, la mondialisation de la spéculation et la mondialisation du progrès d'Internet. Mais il y a un retard de la mondialisation du politique, un retard de la mondialisation, je dirais, socioculturelle. Donc, ces différentes vitesses de mondialisation peuvent créer de véritables frictions. Commence déjà à en créer. Par exemple, lorsque par Internet ou avec des systèmes équivalents de manipulation de l'information à distance, on peut créer des énormes mouvements de capitaux instantanés. Ça a des conséquences tout à fait réelles sur le plan social, sur le plan économique et sur les grands équilibres de la planète.
Vous êtes en train de nous dire que Internet, c'est pas seulement un enjeu technologique et un enjeu économique très important. Il faut de la politique dans Internet, c'est-à-dire qu'il faut réguler Internet ?
Internet, c'est le symptôme d'une révolution très profonde qui va aller jusqu'à, par exemple, des formes de disparition de l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui, d'autres formes de taxation. Par exemple, comment taxer le commerce électronique ? Faut-il le taxer ? Une forme de disparition du pouvoir des États sur le territoire virtuel que représente Internet, puisque l'État, classiquement, est associé à un territoire réel, mais quid des territoires virtuels ? Donc, Internet, c'est une sorte de phénomène avancé de quelque chose qui va devenir beaucoup plus généralisé, qui va être une modification de la société industrielle en une société post-industrielle, une société virtuelle, qui va exiger de nouvelles formes de gouvernement. Il ne s'agit pas simplement de réguler Internet, parce que ça, je pense qu'il faut le faire, mais pas au plan simplement du contrôle des contenus. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt de réguler, par exemple, les déséquilibres économiques. Aujourd'hui, Internet est en train d'être centralisé et monopolisé par le carrefour mondial américain, ce qui implique que des pays périphériques comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, comme l'Europe, comme toute l'Asie, sont aujourd'hui connectés en priorité aux États-Unis, ce qui donne un surcroît de pouvoir au monopole américain, tant dans le domaine des infrastructures d'Internet, mais aussi du commerce électronique, des logiciels aussi. Donc tout cela implique des formes de régulation nouvelles.
Il y a d'énormes interrogations sur l'évolution d'Internet. Comment protéger la vie privée? Comment protéger les consommateurs? Comment protéger la création, les droits d'auteur? On met souvent en avant la liberté sur Internet, sur le web, les possibilités de connaissances, d'expression sans précédent, et c'est vrai. Est-ce qu'il faut tout réglementer aujourd'hui?
Je ne dis pas qu'il faut réglementer, mais il faut réguler. Par exemple, la liberté de traquer le parcours des consommateurs avec des bases de données puissantes qui vont faire intrusion dans votre vie privée, parce que on saura exactement ce que vous avez cliqué, à quel moment et quel type de contrôle cela peut impliquer sur les vies privées, évidemment demande une forme de régulation. Il faut des régulations à l'échelle mondiale, sinon ça ne sert à rien, parce qu'il y aura l'équivalent des paradis virtuels ou des paradis numériques, comme il y a celui des paradis fiscaux. Toutes ces formes d'impact sur la vie privée, sur le commerce mondial, sur la délocalisation des entreprises impliquent des régulations au sens noble du mot, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des régulations au sens politique. Or, ceci ne peut être fait par ailleurs que dans un environnement mondial. Donc ça va avoir un impact considérable sur le système des Nations Unies lui-même. Parce que ça va obliger le système des Nations Unies, comme par exemple l'OMC, l'OMPI, mais aussi l'UNESCO, qui s'intéresse aussi à ces questions d'éducation à distance sur Internet, eh bien, à avoir une politique à l'échelle mondiale beaucoup plus intégrée.
Alors justement, à propos d'éducation, le reportage appartenait commencer dans une école. C'est vrai que c'est, l'éducation, c'est un secteur très prometteur pour Internet, comme outil d'enseignement. Mais en même temps, c'est un outil froid, c'est très distancié, c'est très abstrait finalement, Internet.
Il y a deux problèmes avec l'éducation sur Internet. Le premier, c'est le risque de voir les meilleurs cours, les meilleures universités virtuelles se constituer, mais de façon payante. Et ça, c'est un vrai risque. C'est actuellement le cas aux États-Unis, où le chiffre d'affaires lié à l'éducation sur Internet et l'éducation à distance est supérieur désormais au budget total des universités réelles. Mmh. Et le deuxième problème, c'est effectivement la question de l'abstraction. Et là, il y a donc un problème que Internet en soi ne résoudra jamais, mais au contraire risque d'accélérer. Mais il faut à ce moment-là considérer les technologies de type Internet et éducation à distance comme des technologies dans un panorama pédagogique plus large, incluant notamment de la pédagogie bien concrète, bien réelle, en interaction humaine effective.
Donc ça veut dire que Internet sera ce qu'on va en faire. C'est pas seulement l'outil, c'est la manière de l'utiliser.
Internet nous oblige aujourd'hui à reposer tous les problèmes sociaux, économiques, politiques d'une façon nouvelle. Mais Internet en soi n'est pas une solution à tout. C'est simplement un déclencheur. C'est un symptôme. Donc, on peut dire que c'est désormais un débat mondial qui s'ouvre et qui, je l'espère, aura plus de succès que la dernière rencontre à Seattle, mais qui devra forcément trouver une forme de compromis convenant à tous. Et c'est, d'une certaine manière, la planétisation, la mondialisation socio-culturelle et politique qui s'amorce et qui s'annonce avec Internet.
On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'évolution, notamment en France, d'Internet, qui s'est fait avec du retard, mais rapidement, c'est à la mode, Internet, il y a la consommation numérique, entre guillemets, en pleine explosion. Comment on se situe dans le grand bain mondial maintenant?
La France a pris du retard, mais aujourd'hui le rattrape. Je peux dire que dans 4-5 ans, et même peut-être avant, la France aura atteint le niveau qu'a aujourd'hui les États-Unis. Et bientôt, les capacité d'avoir Internet sur des portables vont encore accélérer cette prise de conscience, cette facilité de navigation. Et donc, on peut prévoir l'explosion en France dans les 3 à 5 ans qui vont venir, ce qui va très vite se traduire par des chiffres du genre 50% des Français connectés sur Internet et utilisant quotidiennement Internet pour des tas d'applications.
Philippe Kiao, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de la division Information et Informatique de l'UNESCO. Vous avez publié 2 ouvrages, Le virtuel, Vertu et Vertige aux éditions Champvallon et Éthique du virtuel qui avait été publié par l'INA. Merci. Pour passer le cap des 50 millions d'utilisateurs dans le monde, la radio avait mis 38 ans, la télévision a mis 13 ans, Internet n'a mis que 5 ans. Impossible d'y échapper désormais, alors autant s'y mettre tout de suite. Et d'ailleurs, Radio France a un site internet qui vous propose plein de choses. Sélectionnez les programmes radio qui vous intéressent avec de nombreuses informations en plus. Vous pourrez ainsi retrouver cette émission demain à la une du site internet de Radio France avec des enquêtes complémentaires de la rédaction multimédia. L'occasion également de découvrir notre site, le site d'Interception. Voici l'adresse www.radio-france.fr ou bien www.franceinter.com. Le reportage d'aujourd'hui était signé Stéphane Faure, réalisation assurée par Anne Nuro. We'll be right back.